Eh bien, merci d'être avec nous pour cet après-midi. On va passer une petite heure avec Laurence Vanin. On va parler du Léviathan. On a son fan club. Je vais quand même faire quelques présentations rapides. Alors, docteur en philosophie politique et épistémologie, travaille à la faculté de droit et de lettres de Toulon, directrice de l'université du temps libre de Toulon. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vous co-dirigez la collection. Alors, comment on prononce exactement ? Délégué Ferranda, aux éditions EME, et puis aussi le label Idée aux éditions Ovadia, avec parmi vos ouvrages donc Leibniz et Hobbes, je ne sais pas si je le prononce bien, Réflexion sur la justice et la souveraineté. On a également des ouvrages sur Tintin, sur le Petit Prince et sur Winnie l'ourson. Et puis on a également la pensée en éclat. Je voudrais donc qu'on parle du Léviathan. J'ai bien tout précisé sur la présentation, j'ai oublié des bouts.
Non, mais moi ça va, le minimum suffit. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. En fait, l'essentiel est dit, j'enseigne effectivement la philosophie politique à l'université à Toulon, j'interviens en faculté de droit, et je suis sur des différentes filières, puisque j'initie à la philosophie du droit, et les passerelles entre le droit et la philosophie, ce qui est absolument passionnant, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et ma spécialité, c'est que j'ai fait une thèse sur la philosophie politique. C'est aussi ce qui fait que j'ai écrit sur le Léviathan et sur Leibniz et Hobbes. Et puis, j'interviens aussi en fac de lettres. Et là, c'est pour ça que j'ai travaillé sur Winnie l'ourson. Parce qu'au départ, c'est un texte en anglais. Et j'ai passé 6 ans non seulement à traduire les 24 histoires, c'est-à-dire Winnie the Pooh, Conan the Legends. Et en même temps, j'ai travaillé sur toute la symbolique. Et comme je suis membre d'honorable de l'université de Pékin, j'ai travaillé sur le chinois et il se trouve que Winnie the Pooh, Pao, le morceau de bois brut en chinois, eh bien ça amène à la transposition de l'excursion heureuse de Chuang Tzu avec tous les champs de conscience. Donc petit à petit, je m'amuse, ce qui n'est pas sérieux pour un universitaire, et donc je passe de la faculté de lettres et tous mes étudiants en anglais et en empirisme anglais à la faculté de droit, puis vous l'avez souligné, avec mes seniors, avec l'université du temps libre. Bon, je m'amuse, oui, je m'amuse beaucoup.
C'est une bonne...
Oui, c'est une façon de vivre la philosophie, c'est bien.
Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur le Léviathan ? Qu'est-ce qui vous intéressait ?
En fait, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de problèmes à l'heure actuelle avec la société dans laquelle nous nous projetons et dans laquelle nous vivons. Moi, j'ai un mal fou, alors peut-être que je suis une antisociale, peut-être que je ne suis pas quelqu'un de respectable, je n'en sais rien, mais je me rends compte que les valeurs de la République sont souvent bafouées, je me rends compte qu'on a une difficulté à penser le politique, on voit que les gens désertent un peu les urnes et les femmes aussi beaucoup, et j'en appelle les femmes, parce que je me dis, finalement, nos grands-mères ont tellement bataillé pour pouvoir avoir des droits de vote qu'il faut absolument y aller, parce que se plaindre après coup, c'est bien, mais il faut y aller, quoi. Et puis en même temps, je me suis dit, là, j'ai la possibilité, en tout cas, j'ai l'opportunité de travailler sur 2 auteurs. Leibniz, qui est, on va appeler ça un optimiste, qui considère qu'avec l'humanisme, l'homme est toujours perfectible, il peut s'améliorer, il peut faire plein de belles choses. Alors, il propose un programme, bien sûr, avec un prince qui sera usufruitier, qui veut faire que la terre se bonifie, le peuple avec lui, etc. Et je me suis dit, bon, c'est magnifique, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu utopique ? Et puis, d'un autre côté, Hobbes, le philosophe qui dit, l'homme, s'il n'a pas un peu peur, s'il n'est pas un peu dans une situation d'extrême, et si on ne le renvoie pas un peu dans ses retranchements, est-ce que si on ne lui met pas un peu de discipline et d'autorité, est-ce qu'il peut s'humaniser quand même ? Et donc ces deux ambiguïtés-là, enfin ces deux conceptualisations-là, pardon, m'intéressaient parce qu'aujourd'hui on en est là. Est-ce que dans notre pays il faut de la discipline sans passer pour un facho ? Excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'il faut à un moment donné reparler de la notion d'état de nation ? Moi je parle d'état de nation en 17e-iste. Vous pouvez pas vous imaginer, la dernière conférence que j'ai faite, j'étais traitée de tout ce que vous voulez. Et j'ai dit, mais vous avez rien compris, l'état de nation, un état, substar est ce qui tient debout, et la nation, c'est ce qui fédère l'état. Donc si le substaré, c'est ce qui doit tenir debout pour qu'on ait des institutions politiques, eh bien il faut que d'un autre côté, il y ait quelque chose de plus attrayant, l'État-nation. Et comment on se retrouve sous l'État-nation ? Bah, un hymne national commun. Alors il y en a certains qui critiquent en ce moment l'hymne français en disant que la Marseillaise est un peu virulente. Bah, mettez-vous à l'idée qu'il y a l'hymne italien, moi qui me fait beaucoup sourire. On voit déjà les spaghettis, les pizzas qui arrivent, vous voyez. Un hymne représente une nation et un pays. Le fait qu'on ait une langue commune, moi ça me choque pas, ça me semble même logique. À une époque où l'État-nation a surgi quand on était encore dans la langue d'oc et dans la langue d'oeil. Et en plus il y avait le latin pour les érudits. Donc il fallait bien qu'il y ait une langue commune pour que les gens se comprennent. C'est ça à l'origine. Et puis le fait qu'on puisse vivre ensemble dans quelque chose qui fait qu'on se retrouve. C'est ça l'État-nation. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens veulent en dire aujourd'hui de manière complètement hallucinante parce que les termes, ils ne les connaissent plus, les mots, ils ne les connaissent plus. Le mot à la mode, c'est l'amalgame. Et bien, ils font des amalgames et ils confondent tout. Voilà. Et j'ai écrit pour ça, pour nuancer deux auteurs, pour expliquer que finalement, le monde dans lequel nous vivons a peut-être besoin d'une réflexion là-dessus.
Parlez-nous des liens avec le Léviathan, parce que pour Hobbes, Léviathan égale État.
Et oui.
Alors, je fais un raccourci. Hein.
Oui, non, mais vous avez raison, on fait des raccourcis, parce que c'est comme ça qu'on comprend la philosophie politique. Hobbes, c'est un philosophe qui se dit, voilà, au moment où il est dans sa pleine pensée, on est en 1588, il écrit sur le politique et il dit, voilà, je suis né, et il dit, ce petit ver qui était moi, pour expliquer qu'il était en fait l'enfant qui est né prématurément, parce que sa mère avait peur qu'en Angleterre, l'invincible armada envahisse en fait l'Angleterre. C'est vrai que les Espagnols à l'époque avaient une armée, en tout cas une navigation extraordinaire. Retranchons bien l'histoire, on est dans une période où il n'y a pas encore Louis XIV. Louis XIV arrive juste après ça, c'est-à-dire que là on est encore sur Richelieu, Mazarin. Louis XIV arrive et il crée ensuite la marine nationale, c'est-à-dire celle qui fait notre force, c'est-à-dire la marine au sens étatique du terme. Donc, tout le monde a peur de l'invincible armada, et ce petit ver qui était moi était né. Et Hobbes se dit, finalement, la société dans laquelle nous vivons est une société dans laquelle les hommes se perdent, il y a beaucoup d'utopie, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à mettre en place, et il imagine une fiction. Et il se dit, si on imagine une situation dans laquelle les hommes pourraient faire tout ce qu'ils veulent, parce que rien ne serait encore interdit, parce que la loi n'existerait pas, même pas la loi de Dieu, ni même la loi de Moïse, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, si rien n'existe, tout est permis. Donc, si rien n'existe, tout est permis, vous avez un beau téléphone, il me plaît, le mien, je le trouve un peu ringard, je vous le vole. Alors, si vous défendez, je vous cogne un peu, histoire de... Bon, quand même, voilà. Si j'y arrive pas et que j'ai quand même repéré un ou deux objets sur vous qui me plaisent bien... je trouve un ou deux copains ou une ou deux copines en disant, voilà, on va lui tomber dessus ce soir. Quand il va rentrer chez lui, nous le suivrons. On va lui tomber à trois dessus. Pendant que toi, tu le castagnes, moi, je lui vole ce que je veux, etc. Mais comme le vol n'est pas interdit, lui, il ne peut même pas aller se plaindre. Et donc, il dit, voilà, puisque rien n'est interdit, tout est autorisé. Et par conséquent, eh bien, les hommes sont livrés à eux-mêmes et font ce qu'ils veulent. Seulement, la chose qui est inquiétante, c'est que si moi, je me fais voler un jour, vous vous doutez bien que le lendemain, je prends une arme blanche pour me défendre. Si je trouve que cette arme blanche n'est pas suffisante, je prends une arme à feu. Si je me rends compte que je suis un peu fébrile parce que je ne suis pas bien grande, etc., je me dis, je vais m'acoquiner avec deux, trois lascars un peu costauds, histoire d'avoir au moins deux gaillards qui ont l'air un peu impressionnants à côté de moi. Et ainsi de suite, il y a une montée en puissance d'une violence quasiment illégitime, mais qui est là, qui n'est pas punissable parce que la loi n'existe pas encore. Et il nous dit comme ça, et c'est extraordinaire, parce que quand on y pense, on se dit, voilà, les hommes sont égaux devant leurs vices. On veut tous la gloire, la richesse et les belles choses. Et vous serez d'accord avec moi. Moi, je suis philosophe, mais proposez-moi du plaqué or ou de l'or, je sais où je vais. Parce que d'abord, je trouve que le plaqué or, la vache, ça s'en va. Ça, c'est gratigne. Donc, je préfère l'or. Voilà. Si je vous dis, vous avez droit à une belle femme ou une femme qui n'est pas très jolie, vous allez me dire, il n'y a pas photo. Une belle femme. En plus, elle est intelligente et philosophe, vous direz, alors, extraordinaire. Le gros lot, le package. Voilà. Donc, on est dans une situation où, effectivement, il n'y a pas assez de richesse, il n'y a pas assez de belles choses. Par rapport au nombre d'individus que nous sommes, et nécessairement, ça amène une sorte de délitement comme ça de la relation sociale. Et il dit, petit à petit, imaginons, nous étions un village, toutes les chaises étaient pleines, nous étions tous là, et petit à petit, à force de tomber les uns sur les autres, de s'entretuer, de piquer les choses les uns aux autres, y compris, à un moment donné, on a le droit sur leur vie, sur leur corps, viol et torture, mais ensuite, il dit, comme c'est pas condamnable, on peut faire ce qu'on veut, jusqu'à la mort. Donc imaginons, nous étions un village qui existait tranquillement et sereinement, et toutes les places qui sont vides, ça serait les gens qu'on aurait déjà exécutés. Si on regarde, finalement, du coup, ça fait presque du 50-50. Et on se dit, oulala, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue à s'entretuer? Le prochain, c'est peut-être moi. Parce que même si on s'est associé, à un moment donné, il y a une sorte d'équilibre des forces dans la violence. Et on se dit, oulala, il faut réduire ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vouloir s'associer pour passer une sorte d'association. Et l'association, c'est ça. Je me présente devant vous et je dis... Je m'engage devant cet homme ou cette assemblée. Cet homme, c'est le roi, ou cette assemblée, c'est vous, parce qu'il est moderne, c'est les Anglais. Donc l'assemblée, ça peut être une assemblée, entre guillemets, nationale. Une Commonwealth, comme on dit en anglais, ou alors tout simplement une sorte de cité-État. Donc je viens et je dis, je m'engage devant cet homme ou cette assemblée à ne plus user de mon droit. Mon droit, ça veut dire ma violence ou ma force. À la condition que tu en fasses autant. Il est bien d'accord que si moi j'arrive ici toute naïve en disant « Ok, moi je pousse comme les enfants, hein, on se bat plus, je t'ai promis, je suis plus violente. » Mais que vous continuez à l'être, ma survie, elle va pas durer longtemps. J'ai peu de temps pour moi. Par contre, si je m'engage à ça, et que vous en faites autant, parce que c'est ça l'idée, eh bien au bout d'un moment, on est tout un ensemble d'individus pacifiés. Mais pacifiés, pas parce que quelqu'un nous a dit « Tu dois pas te battre, tu dois pas, etc. » Non, parce que nous avons compris que si nous continuons, tôt ou tard, à un moment donné, nous allons y passer. Et cette peur qui nous prend au ventre, on appelle ça une ratiocination absurde, nous amène à l'idée qu'il faut, par quelque chose d'absurde, c'est-à-dire la peur au ventre, devenir raisonnable. Ratiocination absurde. Et là, il dit, en créant tout ça, ben, c'est comme si on obéissait à quelqu'un alors qu'il n'y a personne. Et quand on va obéir à ce quelqu'un qui est une entité, ça va donner le Léviathan. Le Léviathan, pour lui, c'est le monstre biblique, c'est le monstre marin, c'est le crocodile, en gros. Et il dit, si à la tête, on va considérer une souveraineté, le peuple qui va constituer le corps, c'est comme les écailles de ce crocodile, ce monstre marin. Donc, imaginez, on avait peur les uns des autres, on avait peur pour notre vie. Pas des autres, on s'en fout des autres, on est pour soi. Et on se dit, oh là là, je risque ma vie, je risque ma peau. Donc, on renonce à user de sa violence. C'est comme si on obéissait à quelqu'un, mais en réalité, on obéit à personne, on n'obéit qu'à soi-même. Et au terme de ça, comme tout le monde a fait la même chose, ben c'est comme si on était aggloméré comme les écailles d'un crocodile et il ne nous reste plus qu'à nommer un souverain qui va diriger tout ça. Le Léviathan, c'est cette puissance-là.
Est-ce que ce n'est pas une vision optimiste ?
Alors, optimiste, je n'irai pas jusque-là. Quelque part, il dit, si les hommes n'y arrivent pas par eux-mêmes, il va falloir à un moment donné leur mettre quelques coups de pied au derrière. Mais ils se les mettent eux-mêmes parce qu'ils ont peur. En même temps, on se dit, est-ce qu'une fois que ça sera fait, est-ce que ça va être pour autant une volonté ou est-ce que ça va être possible de se rendre perfectible ? Et c'est là que je critique les philosophes du contrat. Alors je le fais avec beaucoup de, comment dire, de raisons et de nuances. C'est-à-dire que je dis souvent que les hommes se perfectionnent ou ils sont capables de le faire quand ils ont un intérêt à le faire. Or aujourd'hui, on comprend que dans l'État tel qu'on le conçoit, avec la laïcité, avec l'ouverture vers un monde, avec l'idée qu'on doit être dans une certaine façon raisonnable, c'est difficile de concevoir que, parce qu'on passe un simple contrat, d'un coup on devient raisonnable. Pour moi, l'homme, s'il est perfectible, c'est pas par rapport à ça. Et d'autant plus que si on est raisonnable, on est raisonnable que le temps où on a encore le souvenir de sa peur. Imaginons, on a passé le contrat, on a donc notre Léviathan, tout est en place. Tout est en place, mais c'est tellement bien en place que finalement, au bout d'un moment, on fait travailler les industries, le commerce, les arts, tout va bien. Mais on en oublie un peu à un moment donné notre parole parce que c'est tellement confortable que finalement on va recommencer à vouloir convoiter ce qu'a l'autre. Alors si ça arrive de manière exceptionnelle, eh bien la loi se chargera de punir celui qui a, entre guillemets, dérogé à sa parole. En même temps, on sait que j'ai le droit, et c'est là que Hobbes est considéré comme le philosophe du droit moderne, j'ai le droit à ma légitime défense. Si vous m'agressez dans la rue, je ne sais pas ce que vous allez me faire, donc je vous réponds. C'est pas la loi d'aujourd'hui où on vous dit quelqu'un entre chez vous, s'il vous agresse, il faut que vous répondiez à armes égales. Armes égales, quand l'individu est dans votre chambre en train de vous menacer, là vous cherchez plus l'arme, hein. Vous cherchez le sauf qui peut, hein. Donc vous faites ce que vous pouvez. Et si vous le tuez, ben c'est la peur au ventre, hein. Donc en réalité, il anticipe sur tout ça et lui il dit, quelle que soit la fonction, quel que soit le titre dans la cité, que je sois un noble ou que je sois un pauvre serf au bout du champ, sur ma graisse, j'ai le droit de me défendre. Là, c'est moderne. Ensuite, il dit, eh bien, finalement, les gens, on les tiendra par la loi et par une forme de discipline et d'autorité qui va se mettre en place. Là où je dis effectivement que c'est utopique, c'est que, pour moi, les droits de l'homme, c'est l'horizon du droit. C'est pas une réalité. Parce que quand on est dans la cité, vous vous en rendez bien compte, il y a des droits et des devoirs. Quand on parle de la liberté d'expression, il y a eu une grosse erreur en janvier, je m'excuse de revenir sur ces sujets-là, mais je pense que c'est important, c'est qu'on a dit c'est la liberté d'expression qu'on tue ou qu'on assassine. N'oublions pas que l'affaire de Charlie Hebdo, c'est quand même des caricatures qui ont été faites il y a quelques années de cela, il y a 13 ans à peu près, qui ont heurté la sensibilité de certains intégristes religieux, et je pèse mes mots, qui eux-mêmes ont posé une fatwa, et qui eux-mêmes ont posé, sous le nom de blasphème, à la suite d'un tribunal religieux, la décision de la peine de mort. La peine de mort qui était le châtiment complet suite à l'incident de l'époque. Et après, il suffisait simplement d'attendre le moment où en appuyant sur un espèce de déclencheur psychologique, quelques individus allaient passer à l'acte. C'est tout. C'est pas la liberté d'expression. C'est le blasphème qui a été condamné en tribunal religieux. Ça, il faut faire la différence. La liberté d'expression, c'est autre chose. D'abord, je tiens à préciser une chose, c'est qu'il y a 14 articles du code pénal qui limitent la liberté d'expression. En d'autres termes, je n'ai pas le droit de vous insulter, je n'ai pas le droit d'inciter à la haine, d'inviter à la haine, pardon, et il y a plein d'autres choses qu'on pourrait mettre en avant. Mais surtout, j'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce que vous croyez vraiment que la liberté d'expression est une nécessité? J'ai des tas d'amis, moi, qui sont d'us et coutumes complètement différents. Vous pensez bien que si je les reçois à la maison et que je commence à aborder des sujets qui leur font de la peine, je vais me fâcher avec eux. Donc j'évite les sujets. Ce qui veut dire que même quand vous êtes dans votre milieu professionnel, ne me dites pas quand vous n'aimez pas votre patron que vous dites « celui-là c'est un gros con, je l'aime pas » et est-ce que vous lui dites carrément ? Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, bien souvent, et on appelle ça le protocole ou la sociabilité, on met de l'eau dans notre vin, c'est-à-dire qu'on ne dit pas carrément ce qu'on pense aux gens. Maintenant, c'est toujours pareil. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous ne l'aimez pas, mais il faut vous attendre à toutes les conséquences qui vont aller avec. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas nécessairement courageux. Vous n'allez pas dire à votre patron que vous n'aimez pas sa manière de travailler ni sa manière de fonctionner. Parce que c'est votre patron. C'est lui qui vous donne votre salaire. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, vous permet de vivre à peu près sereinement par ailleurs. Donc je crois qu'il y a une erreur, il y a une confusion énorme entre la liberté d'expression qui était un enjeu en 1789, qui était le fait que, pour des gens bien éduqués de la société des bourgeois de l'époque, on puisse avoir à dire ce que l'on veut dire, alors qu'il y a eu une période où on était ficelé parce qu'on n'était qu'un baron par rapport à un comte ou par rapport à un roi, et le fait qu'on puisse dire tout ce qu'on veut, comme on veut, parce que bien souvent, bah, aller voir un médecin qui doit annoncer, par exemple, que quelqu'un a une maladie qui est assez avancée, il vous dira que lui-même se retient dans la liberté de tout dire. Donc je crois qu'il faut réfléchir à cette notion-là, et ne pas faire d'amalgame, justement, le mot amalgame que je n'aime pas trop, mais là il est nécessaire, entre une liberté d'expression, des fatwas ou des condamnations pour blasphème qui ne sont pas du même ordre. Il ne faut pas faire non plus d'amalgame entre cette liberté d'expression qui consisterait à faire évoluer le monde en disant des belles choses et même en ayant parfois un côté « je rentre dans le décor pour pouvoir faire avancer les us et coutumes » et d'un autre côté, la liberté d'expression qui consisterait stupidement à dire « je peux dire tout ce que je veux et me permettre tout ce que je veux » sachant que si vous vous regardez, si vous vous connaissez, moi je le dis pour moi-même, tout le monde est susceptible. Je suis susceptible, commence à me dire des horreurs sur ma mère ou moi-même, je peux te garantir que le résultat, ça sera que soit je te parle plus, soit je te fréquente plus, soit éventuellement, si je suis quelqu'un d'un peu nerveux, tu prends ma main sur la figure. Et ça, c'est le minimum. Voilà. Et quand on dit que Nietzsche disait si on tend la joue, enfin on prend une gifle, on tend l'autre joue, ça c'est bien biblique, c'est bien sympathique, mais les philosophes n'ont pas dit qu'on était là pour prendre tout dans la figure en disant je suis un sage serein, assis sur mon lotus et tout va bien. Et je crois que Leibniz et Hobbes, je vais vous laisser parler quand même après, Leibniz et Hobbes, je crois que c'est ça qui nous rappelle. C'est qu'à un moment donné, on est dans un monde de conventions, on est dans un monde de respect, on est dans un monde où effectivement on a beaucoup de liberté, il y a certains endroits où il n'y a plus de liberté, et là où par contre la liberté est à mon sens, à défendre au nom de ce Léviathan, justement ce monstre biblique marin qui aurait tendance à dire « Oh, il faut arrêter », c'est ces moments où dans notre cité, on ne peut plus rien dire. Et moi, je me rends compte que quand je fais des conférences sur l'État-nation, je me suis fait traiter de facho il n'y a pas très longtemps parce que je parlais de l'État-nation. Je viens de Toulon, donc on m'a commencé à me dire que je votais marine, en tout cas bleu marine. J'ai dit « Excusez-moi, mais d'abord, ce que je vote dans les urnes ne vous regarde pas. On est dans le suffrage universel, donc à la limite, je vote ce que je veux. Troisième point, c'est que étant donné qu'il y a une liberté et que ces partis-là ne sont pas interdits, ceux qui votent pour eux ont tout à fait le droit de le faire. Maintenant, vous n'êtes pas avec moi au moment où je vote et vous ne pouvez pas en préjuger. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 60% des personnes qui votent d'une couleur, il y en a même 40% qui votent autre chose et on n'a pas besoin de se justifier sur ces votes ou dire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Et là, les libertés, elles commencent. Et c'est là qu'il faut se battre. Et c'est là qu'il faut commencer à dire, j'ai le droit de parler d'État-nation parce que je l'ai précisé dès le début. Moi, je parle de l'État-nation en étant une philosophe qui parle de l'État-nation du XVIe et XVIIe siècle. On est bien d'accord qu'on n'est pas dans l'État-nation du national-socialisme au moment où il s'est développé en 1939, même si aujourd'hui nous sommes en 2015 et que nos années ressemblent énormément aux années 1939, qu'on le veuille ou non. Et la philosophie du Léviathan, ce monstre marin, nous montre qu'il faut être vigilant J'ai pris le parti du XVIIe siècle. J'ai eu un petit mot d'Edgar Morin parce qu'il est venu en me disant « C'est intéressant, je voudrais vous faire un petit mot. » Le pauvre, il est très malade, donc il n'a pas pu faire une préface entière. Du coup, Filonenko, qui est quand même un grand spécialiste kantien, a dit « Mais moi, je veux venir là-dedans. » Il m'écrit une préface où il me parle des armes de la guerre en disant « Le pape avait interdit l'arbalète parce qu'il disait que quand on tirait sur les gens, ça faisait un peu trop de sang. » Vous imaginez le truc. Il dit « Mais en attendant, on a mis les chambres à gaz, on a fait tout le bazar derrière, on a mis toute la grosse artillerie et personne s'en est offusqué. » Vous voyez, c'est des choses qui sont extraordinaires pour vous, pour moi, d'abord au moment où j'ai écrit, et au moment où vous, parce qu'il n'y a pas d'auteur sans lecteur, vous, au moment où vous me lisez, que ça fait écho chez vous, en vous disant alors, où est-ce qu'on pose les limites, où est-ce qu'on dit non, stop, quand est-ce qu'on arrête avec le laxisme, et qu'on reprend un peu d'autorité, de fermeté, sans pour autant être des intégristes, quand est-ce qu'au contraire, il faut arrêter de dire aux gens, faut pas dire ci, faut pas dire ça, parce que là, justement, il n'y a pas de problème à le dire. Et comment la société peut se recomposer autrement que sous les attraits d'une société dans laquelle aujourd'hui, de plus en plus, on a affaire à la censure, il me semble.
Très bien. Alors, je ne vous pique pas votre portable. Je ne dis rien sur votre maman, j'ai compris.
Et vous ne dites que des belles choses.
Exactement.
Voilà.
Non, non, ce que...
J'aime bien quand on me comprend comme
évidemment,
ça.
Évidemment, évidemment. J'ai peur. Non, pour revenir un petit peu au sujet... Dans ce que vous disiez, le parallèle avec ce qui s'est passé sur Charlie Hebdo, c'est qu'au final, nous avons trois manières ou trois lois.
Oui.
Nous avons le Léviathan, nous avons la loi religieuse, qui ne concerne
aussi.
Pas forcément le Léviathan. Donc,
oui.
Ma question, ce sera comment est-ce que Hobbes s'en arrange dans son idée. Et puis nous avons la loi de la communauté, entre guillemets, la non-écrite. Des us et coutumes et de la bienséance.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec son Léviathan, on a bien dit donc, que les hommes s'engagent à passer le contrat, et c'est comme s'ils obéissaient à une puissance qui vient d'en haut, alors que rien ne vient d'en haut. Ils obéissent à eux-mêmes. Ce qui fait qu'il y a une puissance qu'on appellera une souveraineté, qui est le fiat de l'homme, ce qui est fait par l'homme. Contrairement à avant, où tous les rois étaient nommés de droit divin, comme s'ils étaient les représentants de Dieu sur terre. Donc déjà, ça change les choses. Ensuite, si vous lisez le Léviathan, qui fait quand même 875 pages, donc à la limite, je vous conseille de lire mon livre avant, comme ça c'est plus court et vous comprendrez peut-être mieux la suite, il vous met en frontispice cette espèce d'aggloméré d'un corps avec tous les hommes collés les uns aux autres, comme si c'était les écailles, mais il vous met à la tête une tête comme d'un souverain avec une couronne, et il place dans les deux mains, d'un côté le concile de l'État, et de l'autre côté le concile de l'Église. Et là, il nous dit, finalement, l'État, il pose une souveraineté, qui va engendrer des lois et des décrets pour que nous puissions, entre guillemets, vivre dans une société pacifique. Si on est pacifique, on n'a pas besoin de s'entretuer. Donc l'énergie que nous avons chacun, potentiellement, nous pouvons l'utiliser à bonifier le monde, à bonifier nos actes, à créer, à être novateurs, que ce soit dans nos métiers respectifs, dans nos vies familiales, parce qu'après tout... Créer son petit jardin secret, bien aimer son conjoint ou sa conjointe, prendre le temps d'agrémenter sa vie de belles choses, ça demande de l'énergie. Et ce n'est pas si facile que ça sur le long terme. Et puis en même temps, il explique que tout ça, c'est indépendant du religieux. Et la politique, finalement, ou le politique, parce qu'en philosophie, on ne parle pas de politique de droite ou de gauche, on parle des fondements du politique, l'État, la nation, la souveraineté, le pouvoir, etc. C'est une manière de dire que si on a la possibilité de vivre dans une sorte de terrain pacifié, chacun va pouvoir se révéler avec les compétences et les potentialités qu'il possède. Et après, le rôle des éducateurs, les professeurs, et puis celui qui va aller chez M. le curé ou à la synagogue ou ailleurs, il le fait, eh bien c'est encore d'autres règles du jeu qui sont posées, qui disciplinent l'individu, qui lui posent peut-être des cadres dans lesquels il peut en réalité s'épanouir. Parce que le religieux, normalement, c'est pas de l'intolérance, c'est être dans une forme d'épanouissement. Mais ça n'intéresse pas l'État chez le Léviathan, ni chez Hobbes. Par contre, quand il dit d'un autre côté, il y a le concile de l'Église, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ça veut dire que déjà, on est libre de croire ou pas en Dieu. C'est-à-dire que si je ne crois pas en Dieu, j'ai le droit. Pour autant, j'irai pas dire à tout le monde, mais comment, vous croyez en Dieu, mais vous êtes des imbéciles. Mais... Non, je ne crois pas parce que peut-être je n'en ai pas besoin. D'un autre côté, si je crois parce que j'en ai besoin, et peut-être aussi j'ai une sensibilité qui m'a ouvert à quelque chose qui me permet de dire intuitivement, je perçois quelque chose, une sorte de spiritualité. Est-ce que pour autant j'ai besoin de me justifier? Je ne crois pas. Là où ça devient un problème, c'est quand moi je vais prier dans mon église, qu'en sortant de ça, parce que je croise quelqu'un qui peut-être porte une kippa, et je lui dis, mais enfin, comment, tu t'es trompé de Dieu? Tu t'es trompé d'endroit, c'est ici qu'il faut venir. C'est là que ça pose problème. C'est le moment où je veux convertir l'autre à ma religion, à mes idéaux, y compris à mes non-idéaux quand je n'ai pas d'idées particulièrement liées au religieux. Et ça, c'est important parce que Hobbes nous dit finalement, le religieux, c'est une affaire personnelle. Chacun peut tendre vers son église. Ça ne doit pas empiéter sur les règles du Commonwealth, c'est-à-dire la République, res publica et chose publique. Ça ne m'empêche pas d'être un bon citoyen. Mais après, si je veux être un citoyen spirituel d'une entité Dieu que j'ai envie de vénérer, c'est mon espace privé. Et je trouve qu'en 1588, c'est extrêmement moderne du regard de la laïcité. Et en même temps, je n'essaye pas de convertir, je n'essaye pas de critiquer la religion de l'autre s'il a choisi un autre Dieu, je le vis librement. Il consacre au Léviathan 4 chapitres entiers qui sont quand même conséquents sur le peuple juif. Et là, par contre, on est assez surpris parce qu'il nous dit, c'est étonnant, en 1588, un penseur anglais dit comme ça, alors que l'Angleterre, c'est le protestantisme, hein, vous le savez. Les rois catholiques n'ont pas eu de chance, il y en a eu deux qui ont été décapités en Angleterre. Hein. Donc du coup, ils sont allés chercher à la cour de Hanovre des descendants. C'est pour ça que quand à Monaco, on se marie, il faut demander à la cour de Hanovre si c'est possible ou pas. Hein. Vous savez qu'il y a une histoire pas possible avec ça. Hein. La descendance de l'Angleterre actuelle, c'est quand même les hauts alliés allemands de l'époque en 1700 et quelques. Donc on est dans une situation où on se dit, voilà, lui nous explique le peuple juif et il dit comme ça, le peuple juif, comme il a été élu de Dieu, il n'a pas besoin d'église. En d'autres termes, il n'a pas besoin de synagogue. Il n'a pas besoin de pays, il est partout chez lui. Et il dit qu'il n'a même pas besoin de représentants politiques parce que Dieu s'est adressé directement aux Juifs. Il leur a dicté les lois, donc il a été le monarque, le bienfaiteur vis-à-vis du peuple juif, mais en même temps, il a été celui qui a posé la loi, donc la justice. Et donc, il dit, les Juifs doivent être partout chez eux, mais partout, ils doivent respecter les commandements que Dieu leur a donnés par le biais de Moïse et bien d'autres. Et donc, Moïse, Abraham, etc., ce sont des maîtres à penser pour les Juifs, et partout, ils sont chez eux sur terre, sans avoir besoin, finalement, d'un représentant politique. Alors, après, on apprécie ou on n'apprécie pas, on connote ça comme on en a envie. Mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce que quand on voit que Israël est une terre juive dans l'esprit et qu'en même temps, on se bat pour des frontières, c'est une question qu'on peut se poser dans la géopolitique vis-à-vis de la Palestine et des problèmes qu'on importe aussi dans notre pays. Mais il y a autre chose surtout, c'est que comme les Juifs sont partout dans tous les pays, finalement, on comprend qu'ils ont bien compris le commandement divin. Partout, ils sont chez eux. Parce qu'ils sont usufruitiers d'une terre que Dieu leur a confiée directement. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que finalement, chacun peut repenser son religieux. Les Juifs doivent le penser directement, parce qu'ils n'ont pas eu Jésus envoyé par Dieu. Ils n'ont pas eu le prophète qui leur a parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont eu Moïse qui a été, rappelons-le, en premier le meurtrier, puis le mari infidèle, puis le mari qui s'exile, et qui a sur le mont Sinaï la révélation de Dieu, et qui ensuite est directement celui qui est le souverain politique représentant de Dieu sur terre. Quand on reprend l'histoire, c'est extraordinaire, voyez. Mais en même temps, ça donne une nuance vis-à-vis du religieux et la façon dont chacun doit repenser ça, et puis les valeurs, la République et la laïcité, puisqu'on est dans la laïcité en 1588, c'est extrêmement moderne. J'insiste sur la date parce que nous, on est quand même... La laïcité, c'est 1700... Bon, la Révolution française. Et en même temps, c'est la loi de la laïcité 1903-1905. C'est extrêmement récent. Et quand moi, je fais des conférences à l'étranger, je me rends compte qu'on est les seuls à être laïcs, en fait. Les Belges, ils ne vous parlent pas du tout de laïcité. Donc moi, la première fois, j'arrive, la laïcité, etc. Je les vois, les bras tous leur tombent, etc. Puis d'un coup, je m'arrête, je me dis, mince, on est en terre belge. Alors d'un coup, je leur dis... Et nous, ils me disent, bon, ben nous, on a une spiritualité laïque. Vous voyez comment on joue sur les mots, voilà.
Comment ça a été reçu, justement?
Je crois qu'aujourd'hui, on a un gros problème, et qui est un problème que peut souligner Leibniz, c'est que Hobbes aussi reprend dans sa façon de penser. Pour Leibniz, l'homme est perfectionniste, il possède en lui, il dit « praedicatum in eps subjecto », c'est-à-dire tout ce que nous sommes, on l'a déjà en nous. Mais il faut avoir un terrain pour pouvoir le faire advenir, en gros. J'ai de la bonté, mais si en face, j'ai que des gens agressifs, j'aurais pas le temps de poser ma bonté. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de se mettre à l'œuvre dans quelque chose de bon, etc. Et en fin de compte, on comprend qu'à un moment donné, eh bien, le souverain doit être le bon prince pour ses sujets. S'il faut faire la guerre, il la fera, il faut qu'il ait l'argent pour ça. Il dit qu'il faut aider les pauvres, mais les aider et en contrepartie, ils doivent donner de leur temps à la cité. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de l'argent pour rien, Oui, on est dans les plans sociaux. Il dit qu'un État ne doit pas vivre à découvert, c'est-à-dire qu'on n'emprunte pas plus que de raison, donc on ne vit pas au-dessus de ses moyens. Ensuite, en ce moment, on a le problème de l'Europe, c'est-à-dire qu'on ne dirige pas forcément tout, mais en même temps, on a une double citoyenneté qu'il faut cumuler, citoyenneté française plus citoyenneté européenne. Donc tout ça, c'est des combinatoires particulières. Et quand on va à l'étranger et qu'on en parle, il y a toujours un souci, c'est le problème de comment repenser notre laïcité. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que notre laïcité, telle qu'elle est pensée, elle est belle sur le papier, mais elle est difficile à mettre en œuvre. Et là, la grande question que se posent les gens, c'est de dire quelle serait la laïcité parfaite. Alors moi, j'ai dit, si on est dans l'utopie, hein, utopos, comme un lieu déplacé, la meilleure laïcité, c'est de dire, finalement, je suis dans un État où j'ai le droit de croire ou de ne pas croire, mais c'est mon affaire privée. C'est bien ce qui est dit. Si c'est mon affaire privée, j'ai bien compris que dans la cité, je peux avoir ma croix sous mon pull ou je peux avoir un ou deux signes qui correspondent à ma vie. Or, aujourd'hui, on nous dit que jusqu'à un certain degré, ce sont des signes ostensibles ou ostentatoires. Imaginons qu'on nuance notre laïcité et qu'on dise, après tout, chacun, toujours dans l'utopie, hein, chacun peut avoir tous les signes qu'il veut. Donc, toi, tu portes ton voile, toi, tu peux porter ta kippa, toi, ta croix, même une énorme croix, peu importe. Ça veut dire que tu as le droit de croire tant que tu ne viens pas taper sur l'épaule du voisin en lui disant, au fait, tu crois en quoi, toi? Comment? Tu ne crois pas en Dieu? Vous voyez, il faut qu'il y ait la tolérance, que chacun puisse avoir de manière privée son rituel, et à la limite, pourquoi pas l'afficher, puisqu'on peut avoir des t-shirts avec les Sex Pistols ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, pourquoi pas? Je pourrais avoir un t-shirt avec Jésus ou avec Moïse ou avec... Bon. Mais, d'un autre côté, ça voudrait dire aussi qu'il faudrait que les hommes aient évolué à un cran au-dessus, c'est-à-dire que te croisant dans la rue avec ta kippa ou me croisant dans la rue avec ma croix, que tu commences pas à me virer des baffes parce que je suis pas du même ordre que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la laïcité, ça veut dire qu'en réalité, on est dans une liberté de culte tant qu'on n'essaye pas de convertir l'autre. Si on veut vraiment nuancer, ça voudrait dire qu'on pourrait garder les grands principes, mais en pouvant afficher nos signes ostentatoires ou ostensibles, puisqu'on en est là, mais par contre, n'essaye pas de me convertir et n'essaye pas d'entrer dans un intégrisme religieux vis-à-vis de moi. Et le problème aujourd'hui, ce sont les intégrismes. Et c'est aussi un autre problème qui fait que j'ai inventé un mot, moi. Je ne dis plus la géopolitique, mais la géothéologie. Certaines entités, Daesh et d'autres, nous ont déclaré la guerre. Nous sommes des chiens d'infidèles. Donc nous sommes dans une guerre de religion, il faudrait l'admettre. Et à partir de ce moment-là, il faut répondre par des arguments qui ne sont plus des arguments de l'ordre du laxisme ou de la bienséance. C'est des arguments forts qui seraient des arguments chocs pour défendre nos valeurs, la République et nos citoyens. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne suis pas dans un état de guerre, je ne suis pas de prosélytisme, je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Non, juste qu'il faut réfléchir sur la façon dont nous pensons notre vivre ensemble et la manière dont nous devons préserver notre laïcité avec des gens qui, d'une certaine façon, sont dans l'affrontement systématique ou même dans la contamination affective, puisque je considère que Dieu, il ne le pense même plus. Il le considère comme saint Anselme à l'époque disait que Dieu est plus grand que tout, donc vive Dieu et il a raison sur tout. Allahu Akbar, Dieu est grand, hein. Et vous savez pourquoi on finit toujours par la Warba? Parce que toutes les sourates sont tellement grandes dans le Coran que la dernière qui est la plus facile, à la Warba, Dieu est grand, tout le monde la retient. Donc on commence par les plus compliquées que les gamins ou les gens comme vous et moi ne peuvent pas comprendre ou entendre. Et puis on va vers la plus simple. Et finalement, Dieu est grand, ben c'est celle qu'on peut dire le plus facilement. Et après tout, pourquoi pas? Pour celui qui croit. Mais si on n'y croit pas. Et puis on peut croire en un autre Dieu. Et puis les bouddhistes, finalement, qui croient dans la voie du Dao, ce sont ceux qui disent qu'il faut suivre la voie, on avance vers la voie. Mais ils n'essaient jamais d'enquiquiner l'autre. J'ai jamais vu un bouddhiste moi, me dire « Alors, en qui tu crois ?» Et c'est ça que nous enseigne l'Aïmi Tseop. C'est cette espèce de tolérance, mais en même temps, une réflexion mature sur notre société. Voilà. Et en même temps, les devoirs que nous avons vis-à-vis de notre société. Parce que tout, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, au bout d'un moment, c'est épuisant. Quoi.
Comment justement ils gèrent la mise en place des devoirs?
Alors déjà, ils considèrent que les peuples sont déjà civilisés et éduqués. Voilà. En gros, on est déjà dans du latin et du grec. Je m'excuse, mais... Et on a une histoire, on a les histoires de nos humanités, donc on les connaît. Et comme on les connaît, ben on n'a plus qu'à appliquer nos valeurs, la façon dont on est. Vous savez, je crois que quand on est bien élevé, parce que ça commence là, quand on est bien élevé, on est content de recevoir ses amis, de le recevoir bien. On est content dans la cité d'être aimable. On n'est pas obligé d'être dans le côté mortifère, je dois faire ma BA, parce que sinon c'est ma faute, ma très grande faute. Mais en même temps, on peut être tout à fait... comment dire, sociable, aimable, parce qu'on a des valeurs et des valeurs qui sont belles, indépendamment du religieux d'ailleurs. Ce sont des valeurs éducatives qui nous font devenir hommes. Substare, on le dit pour l'État, c'est tenir debout, mais l'homme, il doit tenir, ou la femme, hein, ils doivent tenir debout. Donc, en réalité, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui ? C'est parce qu'on est dans une société de la non-éducation, du laxisme. Chacun fait ce qu'il veut. Et les enfants, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, après tout, les parents, ils font pareil. Pourquoi ? Puis les parents, forcément, ben, ils sont un peu laxistes vis-à-vis des enfants. Donc, on se retrouve dans une société où, moi, je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Quoique, après tout, si vous voulez, je suis le diable. Et je dis, quelque part... On est dans une société où si on éduque bien les enfants, ben, ils s'appliquent et ils feront mieux. Si on est dans une forme de laxisme, on a l'impression qu'on va répondre aux problèmes de société en ignorant certains problèmes, alors qu'en réalité, il faut les prendre à bras-le-corps. Une société peut comprendre ces mots que si elle les formule. Donc, pourquoi ne pas faire, dès le plus jeune âge, un cours sur les trois grandes religions ? Pourquoi ne pas intégrer dans nos manuels nos étymologies des mots grecs et latins ? Et ouvrir peut-être à des étymologies plus larges. Et on regardera que dans notre vocabulaire, il y a effectivement des mots d'origine nordique, des mots d'origine chinoise, des mots d'origine arabe, etc., etc. Eh bien, ça fera partie d'une culture un peu cosmopolitique, mais qui nous permettra d'avoir l'ouverture d'esprit. Or, ce n'est pas en enlevant ou en vidant les cerveaux de la substance qui est la leur et de leurs racines qu'on va faire des citoyens de demain des individus qui seront aptes à comprendre des différences ou des cultures qui ne sont pas les leurs. Et puis commençons par les fondamentaux. L'école, moi, elle est sympathique quand on dit on va apprendre les arts, on va apprendre telle chose, telle chose. Restons dans le contexte. Que doit nous apprendre l'école ? Lire, écrire, compter, la géographie. Revenons aux fondamentaux. Et puis quand tout le monde saura lire et écrire, ben après on partira plus loin. Moi, je me retrouve des fois en faculté à recevoir en licence 3 des analphabètes. Des analphabètes. On ne sait pas écrire. J'ai vu dernièrement un chien. Alors, je me demande ce que c'était un chien. Ben, en fait, c'était le chien. Voilà. C-H-I-E-N, ben, ça s'est écrivé S-H-I-N, un chien. Voilà. Et quand je me dis, on me parlait du chien de Diogène, ce chien de philosophe, excusez-moi, mais il faut des décodeurs, là. Hein. Vraiment. Alors, vous vous dites, bon, il y a quand même un souvenir vaguement de ce qu'on veut leur dire, mais d'un autre côté, il y a quand même une complexité. Et on se dit, on peut pas toujours niveler par le bas, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait de la compétitivité, un peu d'effort. Alors là, quand je parle comme ça, je dis que des gros mots, vous avez bien compris. Il faut accepter une autorité, il faut... Voilà. Mais moi, j'ai toujours dit que la culture est difficile. Moi, quand j'étais enfant, j'avais du mal avec les mathématiques. Ben, j'ai quand même appris mes tables de multiplication, j'ai appris ma grammaire et tout le reste. Et puis maintenant, ben, j'évolue avec ma culture comme un ambassadeur, puisque je transmets un peu partout, et je pars à l'étranger, et j'accueille avec je découvre et j'accueille les cultures des autres avec un plaisir immense. Mais parce que je connais la mienne, déjà. Je crois que la clé, elle est là, ce bon sens qui fait qu'on pourrait être heureux. Puis il faut aimer un peu notre pays. Vous savez, la patrie, le patriote, aujourd'hui, c'est mal vu aussi. Bon sang, zut. Moi, j'ai dit, arrêtez de m'enlever mon fromage, mon bon vin, mes églises, mes lieux de culte qui m'intéressent. Parce que moi, mes lieux de culte, c'est la forêt où je peux m'installer. Je suis bretonne d'origine. Donc, où je vais voir ma brocéliande et puis je suis dans... C'est là mes lieux de pèlerinage, en gros. C'est là que je me ressource. Comme certains vont au Louvre, d'autres vont... à la pêche, parce que ça les détend, c'est notre mode de vivre et notre modalité d'être. On est comme ça, on a une culture qui est bien la nôtre. Ben, pourquoi changer ? Il y a une phrase que je dis souvent ces derniers temps, alors bon, vous apprécierez ou pas, je m'excuse, mais ben, d'ailleurs je m'excuse d'avance. Moi je suis de l'Occident, j'ai pas envie qu'on m'orientalise, sinon je vais vivre en Orient. De la même manière qu'en Orient, ben, qu'ils restent orientaux, parce que ça me plaît bien d'aller les visiter et de découvrir leur pays. Vous voyez ? On ne peut pas uniformiser. Vous savez, quand on dit qu'il faut que tout le monde soit égaux, maintenant, on vive la différence. Parce que si, quand je vais au nord ou au sud, tout le monde est pareil, ben, à quoi ça sert ? Vous voyez ? Le but, c'est que quand vous partez au Maroc, vous êtes bien content de découvrir une culture. Quand vous allez en Chine, vous en découvrez une autre. Quand vous allez en Russie, c'est encore autre chose. Et quel bonheur ! Parce que vous vous dépaysez. Et quand vous rentrez chez vous avec des livres, vous continuez votre aventure, vous avez laissé là-bas quelque chose et vous revenez avec un plein d'autres choses. Et ça, c'est la réalité. Si on est tous uniformes, finalement, je reste chez moi et je vais dans ma rue et je vois tout le monde. C'est un peu dommage, quoi. C'est enlever du charme au monde. Enfin, pour moi, hein, maintenant, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et peut-être vous avez raison. Hein. Je suis peut-être un vieux truc. Hein. Oui, un vieux philosophe.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Non, mais moi j'assume, je suis un vieux philosophe.
Et il nous reste 5 minutes pour des questions éventuellement. Est-ce que vous en avez ? C'est l'occasion.
Vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Vous avez le droit.
Ne me jetez pas dans la rivière, par contre.
Attendez, non ? Juste dire que c'était... Alors, attendez.
On va vous passer un petit micro, comme ça vous allez pouvoir
sans fil.
Soit dire ce que vous avez à dire ou poser une question. Allez-y, on vous écoute.
Ben, en fait, tout ce que vous avez dit, ça m'a fait du bien. Voilà, c'est ce que je ressens.
Ben, voilà. Moi, je vais vous dire, on a un pays magnifique. On a des régions magnifiques. On a des personnalités, les imaginales d'ailleurs le prouvent bien, avec de la bonne volonté et avec une diversité énorme. On a un potentialité énorme et on est un pays où on ne peut pas parler d'argent, on ne peut pas parler de réussite. Des tas de choses deviennent taboues alors qu'elles sont tout à fait simples. Pour ça, il faut revenir au bon sens, quoi. Hein, d'ailleurs, Descartes disait « le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, mais les hommes en usent mal ». J'ai l'impression qu'en ce moment, on en use mal. Et le bon sens, vous prenez des enfants, quelles que soient leurs origines, vous leur donnez un ballon et vous commencez à dire « on va jouer au ballon prisonnier ». Laissez-les jouer. Au bout de 10 minutes, ils se disputent. D'un coup, vous leur dites « on va mettre des règles ». On ne dépasse pas telle ligne, on ne dépasse pas telle ligne. Je mets un sifflet si tu bouscules. Les règles, c'est la loi, en gros. Eh bien, au bout d'un moment, tout le monde peut s'amuser, essayer de gagner ou perdre. Et même perdre, c'est encore apprendre à grandir à quelque chose. Et finalement, la vie, c'est ça. C'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un pessimisme ambiant. On parlait il y a 2 jours du désenchantement. Et je trouve qu'avec le potentiel que nous avons dans notre pays, c'est dommage parce qu'on aurait des entrepreneurs ou des gens qui voudraient faire des belles choses. Ça marche aux imaginales, donc ça pourrait marcher dans n'importe quel domaine. Et les entreprises, au lieu d'aller faire du boulot ailleurs et créer de l'emploi ailleurs, eh bien, devraient être ici. Et en fin de compte, la dynamique des gens, les potentialités, ça devrait être chez nous. Et avec un savoir-faire, avec des choses qui nous caractérisent. Comme dans d'autres pays, ils ont d'autres savoir-faire et d'autres choses qui les caractérisent. Et c'est tant mieux, parce que chacun a sa place et on peut grandir à tout ça. Et n'oublions pas que la valeur argent, on n'en a pas parlé, parce qu'il y a aussi tout ça, il y en a marre de vivre sur le fond des crédits européens. Il y en a marre d'être toujours à crédit et à perte. Moi, quand je vais faire mon marché, j'ai tant d'argent, ben, je m'organise pour mon panier, entre guillemets. Il faut arrêter, vous savez. Il y a une grosse escroquerie en ce moment, c'est que quand on parle de l'économie politique, c'est un mot en philosophie qui n'existe pas. L'économie ne peut être que domestique. C'est l'entrée de mon salaire, mes dépenses, mes recettes. Quand on fait une économie politique, ça veut dire qu'en gros, on est en train de faire spéculer de l'argent dont ceux qui manipulent les chiffres ne voient jamais la couleur. Et on n'est que sur des lignes. C'est-à-dire, à telle date, il faut que l'argent soit rentré, même s'il est ressorti dans la minute qui suit pour d'autres choses. C'est-à-dire que l'argent n'est finalement jamais rentré. Et on vit que sur des pertes et des crédits, ce qui est inadmissible en soi.
Une autre question.
Je voulais revenir en fait simplement sur un des derniers propos à propos de Orient-Occident.
Oui.
Là, je ne suis pas totalement d'accord quand vous avez dit que les orientaux devraient rester orientaux.
Oui.
Parce que c'est, quelque part, ils ne peuvent pas être autre chose. Une identité n'est jamais fixe,
oui,
elle bouge toujours. Et quand on voit ce que font les Japonais, on pourrait croire que c'est des Occidentaux. Quand on va au Japon, non, c'est pas des Occidentaux. Ce sont des Asiatiques très fortement influencés par l'Occident, qui se sont en plus emparés de cette influence, qui en ont fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça va extrêmement loin, parce que même dans leur musique traditionnelle, qu'ils continuent à faire avec les costumes, en plus c'est totalement magnifique, j'écoutais il n'y a pas très longtemps une composition de Koto, et j'ai la surprise d'entendre au milieu de 2 mouvements particulièrement classiques avec le système modal traditionnel et tout, un truc, tiens, mais c'est bizarre ça. Et là, je recherche un peu dans mes sources et tout ça. Je dis, ah oui, d'accord, ce morceau-là, en fait, c'est parce qu'ils ont collé des notes en système harmonique le nôtre. Ils font de l'hybridation.
Tout à fait. Mais alors, je vais me reprendre sur
tout
quelque
en
chose.
Dans leur tradition.
Tout
et
à
ça,
fait.
C'est formidable.
Voilà.
Mais c'est ça aussi le monde d'aujourd'hui. C'est que chacun peut évoluer à sa manière, prendre ce qu'il apprécie chez les autres tout en restant lui-même.
Voilà.
Et je trouve ça génial, les échanges.
Alors, justement, voilà. C'est là où c'est intéressant. Et je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous, et j'ai du mal à m'exprimer. Là où je dis que ça peut poser problème, c'est quand une civilisation veut s'imposer à moi et me poser ou m'imposer sa façon de vivre, alors que moi, je suis d'une autre tradition. Donc quand je dis, moi, je suis occidentale, ben oui, je ne suis pas orientale, je ne suis pas née en Orient, je n'ai pas pris une culture orientale. Quand je dis orientale, ça peut être musulmane et une religion musulmane, si j'ai eu l'Orient arabe, entre guillemets. Je peux être dans l'Orient asiatique et avoir appris le bouddhisme. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je veux dire par là que nous naissons d'un lieu et d'un temps, et nous naissons de façon tous inégale. C'est-à-dire que moi, quand je suis tombée dans mon berceau, Ben, je ne savais pas que j'allais naître dans une famille. Non, mais c'est vrai, personne n'est philosophe chez moi. Très peu ont fait des études. Je tombais dans un berceau où finalement, j'avais des gens qui aimaient les livres et qui étaient très sympas parce que mes parents ne m'ont jamais enquiquiné dans tout ce que j'ai fait. Et il y a des familles où ben, vous naissez dans la misère. Il y en a où d'autres, il y a de l'argent, il y a des lieux. Bon, on ne choisit pas le berceau dans lequel on est. Mais par contre, quand on est déjà un être conditionné. Avant d'être né, on sait si on vous baptise, si bon. Parce que déjà, vous êtes comme un produit, en gros. Et puis, il y a tous les archétypes de la famille qui sont là. Et on hérite aussi de ce que l'on, de là où l'on vient. Je vous parlais tout à l'heure de ma Bretagne pour plaisanter. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, on a des contes. Moi, quand j'étais petite, mes contes légendaires, c'était des contes liés à Brocéliande. Mon papa étant dans la marine, je me retrouve à Toulon, j'arrive, j'ai du gréco-romain. Et je découvre Icare et tous les autres. Et je me dis, bon sang, mais on m'a menti. Moi, j'étais avec mon Merlin, j'étais avec toutes ces pensées particulières qui étaient celtes, et celtes du Nord, notamment, avec les mythes nordiques, le Grand Valhalla, Odin, Thor. Moi, j'étais élevée à ça. D'un coup, on m'a amené à une autre culture. Mais c'était génial, parce que c'était quand même ma tradition, puisque nous sommes, d'un côté, entre guillemets, judéo-chrétiens, mais nous venons aussi de ce berceau, qui est la Grèce, qui a véhiculé Rome, et ensuite, ça a envahi. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est des cultures que l'on intègre. Là où c'est embarrassant, c'est quand des gens viennent et veulent que vous modifiez votre façon de vivre, parce que là, on est dans la conquête des civilisations. Hegel disait, attention, les sociétés ou les civilisations florissantes sont amenées parfois à s'effondrer. Ça veut dire que d'un côté, il y a la Bildung et la Kultur. La Bildung, c'est l'effort que je fais quand j'apprends les tables de matière, tout ce que j'apprends à l'école, et c'est dur. Jusqu'au moment où, quand je les ai intégrés, ça devient facile. Et la culture, c'est la civilisation. Donc la civilisation, je ne sais pas moi, Inca n'est pas la même chose que la civilisation grecque, etc. Que j'aille en voyage en Chine, je découvre des belles choses et que ça alimente ma pensée philosophique européenne. Formidable. Mais qu'on essaye de me faire penser de manière, comment dire, asiatique, alors que je ne suis pas asiatique, c'est embarrassant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis occidentale, je n'ai pas envie qu'on m'orientalise. Parce que quelque part, ça voudrait dire qu'on veut m'imposer une modalité d'être ou de penser qui ne serait pas de l'ordre de ma culture. Même si, avec mon ouverture d'esprit, j'accepte la notion qu'on utilisait avant, qui était de métissage. J'adore métisser ma culture. Parce que c'est ouverture d'esprit. Vous voyez, c'est la nuance que je pose. Et je me suis peut-être mal exprimée tout à l'heure en parlant par rapport à tout ça. Parce que j'étais vraiment dans la vision du politique et pas dans l'idée de la façon dont vous vouliez en parler. Mais c'est bien que vous ayez posé la question.
Eh bien, merci. On bah, arrive
écoutez,
à la
moi,
fin.
Mais oui, mais c'est passé vite, écoutez.
C'est passé vite. Merci, Laurence Anna.
Merci à vous. Merci, merci. Bah, écoutez, alors, merci pour vos questions, parce que c'était très sympathique. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci de m'avoir écouté.
Alors, tout de suite, il y a une conférence sur pourquoi les imaginales maçonniques, histoire d'un partenariat, dans cette même salle. Et puis, on peut vous retrouver tout de suite en dédicace.
Ah oui, voilà. Merci, moi, je suis en dédicace et je vous attends avec grand, grand plaisir si vous voulez continuer à discuter avec moi. Au plaisir. Et puis, profitez bien des dernières heures des imaginales. Un grand moment, en tout cas, à Épinal. Merci à vous.